Il est 16h21. J'ai toujours raison, Jess. Il est là, à l'heure. Alors voici notre chroniqueur politique et social, Éric Lantier. Bon après-midi, mon cher Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
Comment ça va?
Ah, ça va, comme si, comme ça.
Comme si, comme si.
Pour le soleil, par contre.
Ah oui. Ben oui, Éric. Alors, es-tu tanné d'être confiné?
Oui, mais Dieu merci, on a entendu la vice-première ministre cet après-midi lors du point de presse quotidien. Elle a remplacé le premier ministre en poste et elle nous a annoncé que nous allons pouvoir nous réunir ensemble à l'extérieur, 10 personnes au moins, pourvu que ça dépasse pas 3 unités familiales. Quelle bonne nouvelle!
Quelle bonne nouvelle! Et ça là, Montréal et tout!
Oui, maintenant, ce n'est pas sans danger et j'espère que dans cet élargissement des possibilités, les gens vont demeurer vigilants et c'est le bout que je crains. Je crains qu'on va se relâcher encore davantage et que là, ça ne serait que partie remise.
Alors donc, on va faire le travail. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'inciter encore les gens à ne pas baisser la garde, parce que, oui, on peut voir les fautes de ce gouvernement, de nos décideurs, mais on peut aussi dire que si ces mesures n'avaient pas été prises, on aurait pu connaître un bilan encore plus lourd et même catastrophique par rapport à ce qu'on connaît actuellement, pas vrai?
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est une gestion du gros bon sens qu'on appelle en québécois. Parce que on veut maintenir le cap pour réduire cette courbe et empêcher que les hôpitaux soient débordés parce que déjà, on pousse le personnel dans les câbles. Mais il y a quand même une conscience sociale en disant on peut pas en demander beaucoup plus. Donc, tranquillement, on va remettre l'activité économique, l'activité sociale. Ça se fait prudemment. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux différemment? Après coup, on pourra l'analyser.
Mais pour l'instant, on dit qu'on s'en remet au jugement de nos dirigeants. Ce que je n'ai pas aimé, je l'ai dit à tout vent, là, à tous ceux qui veulent m'entendre et voulaient m'entendre, c'était sur la question des masques. Alors, et on voit qu'on s'en va tranquillement vers un masque obligatoire partout dans la sphère publique. Mais cela dit, mon cher Éric, je ne veux pas trop gruger ton temps. Ah, je sais que tu as l'indépendance tatouée sur le cœur. Non, non.
Non, Éric. Je l'ai déjà été.
Tu l'as déjà été.
Ah oui, j'ai déjà été indépendantiste, oui.
Ouais.
Mais je me suis repenti.
Ouais, parce que il y a un analyste, un journaliste qui a posé la question à savoir comment les indépendantistes, aujourd'hui que ça ferait 40 ans là, qu'on serait indépendant au Québec, comment ils auraient négocié cette pandémie? Comment on aurait géré cette pandémie? Est-ce qu'on l'aurait mieux géré ou est-ce qu'on l'aurait géré en pire?
Mais je pense avec les données qu'on a aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait bien géré parce que un des indicateurs, c'est que notre premier ministre québécois, François Legault, était prêt à fermer les aéroports bien avant Justin Trudeau. Et je crois que ça aurait eu un effet assez remarquable sur le taux de croissance exponentielle de la propagation du virus.
Alors, juste pour dire, là, moi, je ne crois pas que le fait d'être indépendant, d'avoir un pays, ce seul fait-là, nous donne un peu plus de présence d'esprit, un peu plus d'intelligence, un peu plus de ci ou de ça. On peut prendre, moi, quand je regarde François Legault, je peux très bien, et c'est mon rôle de critiquer le travail du premier ministre, mais d'un autre côté, je me dis que je n'aimerais pas être dans les chaussures de ce monsieur qui doit très souvent prendre des décisions déchirantes, n'est-ce pas, sans savoir, parce qu'il n'y a aucun livre d'histoire, mais surtout aucun livre au syllabus là qui dit voilà comment gérer dans les circonstances, etc., etc.
Tout à fait.
Il faut improviser. Et des fois, ça donne de mauvais résultats. Souvent, ça donne de bons résultats aussi. Alors, c'est bien beau de critiquer, sauf que le premier ministre, qui n'est pas indépendantiste, qui n'est pas fédéraliste, il est, on verra, n'est-ce pas?
Autonomiste.
Autonomiste, on verra aussi. On verra avec François Legault. Cependant, il faut qu'il soit à gauche, qu'il soit au centre, il faut qu'il prenne des décisions. Alors, Éric, parle-moi de René Lévesque.
Mais écoutez, René Lévesque, pour moi, ça a été, dans mon jeune âge, une grande inspiration, et même jusqu'à tout récemment, lorsque M. Côté a publié son livre qui s'intitule « Québécois 101 », il posait différentes questions, il y a eu différents sondages et dans son livre, et on remarquait que le personnage, là on est autour de 2010-2011, le personnage le plus populaire encore, c'était René Lévesque. René Lévesque a marqué l'histoire du Québec, il a marqué l'imaginaire du Québec, et je crois qu'à ce moment-là, René Lévesque était plus populaire que son option souverainiste, parce qu'il a formé un gouvernement majoritaire, il a inspiré les Québécois et les Québécoises. Il a été réélu malgré la défaite référendaire de 80. Il a été réélu pour un deuxième mandat majoritaire. Donc, on voit que René Lévesque était un homme très inspirant, mais il n'a pas su vendre son rêve à la population. Et c'est là que ça l'a achoppé, à mon avis. Et il a essayé d'amoindrir, si on veut, les impacts d'une séparation en proposant la souveraineté association et en essayant de...
Et plus tard, le beau risque.
Oui, et plus tard, le beau risque. Mais si on revient au 20 mai 1980, malheureusement, ce qui a causé un embêtement, c'est une question qui était pas suffisamment claire pour la moyenne des Québécois. Une question qui essayait de justement édulcorer le concept d'indépendance en disant on va demander au peuple un mandat pour négocier. Mais c'était pas clair pour les Québécois. Alors, ça prenait une question plus claire et je pense que à ce moment-là, les Québécois et Québécoises étaient pas prêts à se séparer du Canada. Il y avait une crainte comme si le ciel allait nous tomber sur la tête.
Oui, mais c'est les conjonctures, pas vrai. Aujourd'hui, ça donnerait d'autres résultats. À cette époque-là, il y avait tout un contexte qui permettait effectivement de regarder une alternative autre. Il y avait surtout des chicanes fédérales provinciales et on pouvait de temps en temps croire que on serait maître chez nous, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Ça permettrait aux Québécois de se développer sans complexe vis-à-vis de l'anglo. Cependant, Éric, entre-temps, là, depuis les 40 dernières années, on voit les Franco se tirer d'affaires pas mal dans la fédération, n'est-ce pas, et même occuper les postes les plus importants, la primature, le pouvoir à Ottawa, etc. Et puis, on comprend que... Naturellement, faut relativiser les choses. Le Québécois est capable de réussir dans cette fédération, de tirer son épingle du jeu. Et c'est plus le porteur d'eau d'Amérique, n'est-ce pas? C'est un être distinct parce qu'il parle français, mais il a sa place dans le concert des nations. Il a sa place en Amérique du Nord. Et maintenant, se retirer seul. Montrer sa distinction, juste pour montrer la distinction, mais sans autre raison spécifique telle ce qu'on avait au départ, à savoir que c'était impossible de vivre avec les autres, etc., qu'il fallait mieux se séparer. Là, le discours, et puis surtout, la démonstration n'était pas faite, là, à l'effet qu'on serait mieux dirigé, là, hein? Parce que tu vois, là, même la considération de tout à l'heure, à savoir que si René Lévesque pouvait vendre, était capable de vendre son rêve. Tu sais, moi, j'ai vu Jacques Parizeau au deuxième référendum arriver. On peut dire qu'il a gagné, il a perdu par un cheveu, et on dit qu'il y a eu des magouilles, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, là, ça serait encore le même peuple québécois. Hein? Et entre gagner et perdre un référendum, est-ce que les gens changent tellement? Le fait de gagner ou de perdre, est-ce qu'on change tellement? Est-ce que ça nous rend plus intelligents de rester dans la fédération? Est-ce qu'on aurait été beaucoup plus intelligents si on était parti de la fédération?
Ben, je crois que, non, là-dessus, vous soulevez un point drôlement pertinent. La différence, je crois, que si on avait été, à partir de 1980, une nation distincte, un peuple autonome, un pays franco-québécois au nord de l'Amérique, eh bien, à ce moment-là, Montréal ne serait pas une ville bilingue. À mon avis, Montréal serait une ville majoritairement francophone.
Tu me dis que la Louisiane n'est pas bilingue?
Oui.
Ah. C'est indéniable. Même Paris est bilingue.
Oui, mais quand même.
T'es d'accord avec moi que Paris est bilingue?
Oui, mais dans une proportion moindre.
Ah, mais on comprend, mais on dirait...
Quand même.
Mais tu sais, tu as soulevé quelque chose de bien, bien important. Est-ce que les leaders charismatiques, genre René Lévesque, ont cette capacité de transmettre? Parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que on peut dire que nous, là, on verra pas la souveraineté du Québec. Or, une idée aussi importante ne peut pas mourir de son propre poids, là, comme ça. Hein? Ce qui fait défaut, Éric Lantier, c'est la relève. Des gens comme les Camille Lorrain et tous ceux de la première cuvée de l'indépendance, enfin du mouvement souverainiste, ces gens-là n'existent plus. Ils n'existent plus. Ils avaient fait une équation tellement simple. Tous les Québécois vivant sur le sol du Québec sont des Québécois à part entière. Et c'est avec tous ces Québécois qu'il faudra faire la souveraineté. Et ça... Le problème de René Lévesque, contrairement à ce que il n'a pas su transmettre cette valeur-là aux générations futures. Tout ce qu'on va voir après, Jacques Parizeau incluant là-dedans, vont dire qu'il faut faire la chose entre nous autres, avec nous autres, se cracher dans les mains, et puis on va faire ça entre nous autres, excluant les autres.
Oui, tout à fait. Mais là, il faut dire que René Lévesque, n'oubliez pas qu'après la défaite référendaire, eh bien, lui, il s'est craché dans les mains. Il a dit, OK, on va reprendre, on a une autre élection, il faut reconquérir la sympathie du peuple. Et là, quand Brian Mulroney est arrivé puis a proposé justement une réforme du fédéralisme, il a dit, OK, c'est un risque, mais c'est un beau risque. Et à partir de ce moment-là, son équipe du tonnerre a dit, non, là, tu vas beaucoup trop loin, on ne te suit plus. Et c'est là que René Lévesque s'est dégonflé, a perdu sa motivation et s'est dit, ben tant pis, c'est fini pour moi, je retourne au journalisme.
Non, mais je regarde ça, je m'excuse là, je pense que ça a été le rêve d'une génération. La génération d'après ne l'avait plus eu, parce que c'est pas seulement avoir un rêve, c'est comme quand on dit, avec un projet aussi important, il faut avoir, comment dirais-je, la vision. Et il faut avoir la mission pour atteindre cette vision-là.
Oui. OK? Mais moi, j'ai une réponse à ça.
Alors, il est resté la vision, mais la mission, là, et c'est par le peuple qu'il faut faire la souveraineté, mon Dieu de mon Dieu. On ne peut pas faire la souveraineté contre une partie du peuple. C'est avec ce peuple qu'il faut faire la souveraineté. Et puis, les générations futures qui ont suivi, n'ont pas compris celle-là. Ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé, celle-là.
Oui, mais pour une raison bien simple, M. Pierre, c'est que la raison qui a amené la défaite de 1980, c'est le génie de Pierre-Éliott Trudeau, parce que ce qui produit un changement chez un peuple, une organisation, une entreprise, une société, un groupe, c'est de passer d'une insatisfaction à une vision qui va améliorer la qualité de vie ou améliorer le futur. Alors que Pierre-Éliott Trudeau a su capitaliser en disant « Je vais répondre à votre insatisfaction en vous donnant des privilèges, en vous accordant des droits et voter non, c'est voter oui. » Il a capitalisé sur cette insatisfaction d'une manière géniale, mais d'une manière machiavélique, d'une manière, je dirais, entre guillemets, malhonnête.
Mais c'est de bonne guerre, ce que tu appelles malhonnête. Regarde, là, on ira plus loin encore, même avec Stephen Harper, qui vous a donné cette appellation d'être le Québec une nation.
Dans un Canada uni.
Le Québec une nation. Alors, c'est de bonne guerre, sauf que, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, de toute façon, ces grands moments-là arrivent pendant un moment et on ne peut pas, lorsqu'on rate cette occasion-là, on ne peut pas se refaire une virginité et se présenter. Les contextes changent tellement. Mais moi, je reste encore une fois parce que je regarde un autre leader charismatique sur la scène internationale qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Hugo Chavez. Il est mort avec la recette. Il est mort avec la recette. Il a été remplacé, mais remplacé par une pâle copie. Hein? C'est la même chose sur la scène ici, là, au Québec, là. Le dernier chef, vrai chef du Parti québécois, a dit qu'il fallait faire vite, là, faire la souveraineté du Québec. Vite, 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 on n'a plus le temps parce que les immigrants s'en viennent. Parce qu'on veut faire la souveraineté contre ces immigrants. Mais voilà ce qui n'est pas bon. Voilà ce qui ne se fera jamais. Il faut Absolument. Comprendre qu'il faut travailler. Moi, s'il faut faire cette indépendance, moi, je veux bien comprendre et je veux même voter oui. Je veux l'indépendance, mais je veux comprendre parce que je ne veux pas faire l'indépendance contre l'avenir de mes enfants, contre l'avenir du Québec, contre l'avenir du Canada. Je veux faire pour le bien-être de la société québécoise. Mais expliquez-moi où sont mes intérêts. Éric Lantier, on pourrait faire une conférence là-dessus, là, et puis, ça oui. serait très intéressant.
Mais vous voyez, vous venez de manifester votre insatisfaction face au futur. Et c'est ça qu'il faut que les leaders souverainistes puissent vous convaincre que l'avenir qu'ils proposent est plus satisfaisant que votre insatisfaction présente. Et c'est là le nerf de la guerre.
Ça fait 40 ans que je cherche à être convaincu. Je ne demande qu'à être convaincu pour voter oui. Et le jour où je suis convaincu, là, je serai plus convaincu qu'un Éric Lantier. Je vous assure, là, je serai plus convaincu et j'irai sur tous les toits voter trompeter et tout ce qu'on veut, là. Pour le Québec libre, vive le Québec libre. Pas vrai, Éric? Vous et moi, là?
Oui.
On ferait un duo du tonnerre. Merci, Éric Lantier.
Au plaisir.
Merci, on s'en va à la pause, même si on dépasse l'heure de la pause, mais c'est pas grave, Jean-Emmanuel sera là avec nous dans un instant, mesdames, messieurs.